Donc, le thème de la pleine conscience, ceux d'entre vous qui me connaissent sont peut-être un peu étonnés. C'est un mot que j'utilise rarement, pleine conscience. Voilà, je pense que j'ai jamais fait un discours sur la pleine conscience encore. Une des raisons pour lesquelles je n'utilise pas trop ce thème, il y en a plusieurs, mais une des raisons, je pense, récemment, c'est parce qu'il y a une telle diversité de discours sur la pleine conscience qu'en fait, ça devient un endroit un peu confus où on met tout dedans, en fait. Mais voilà, je me suis dit que quand même, il y a des choses très, très importantes à explorer de ce côté-là. Je parlais, en fait, dans les enseignements que je donne, il y a tous les éléments de la pleine conscience, mais sans nommer quelque part. La pleine conscience. Du coup, voilà, je me lance dans cette aventure. La pleine conscience vient d'un discours en fait du Bouddha, les premières traces de cette approche de la méditation qu'on appelle la pleine conscience. Il vient du discours qui s'appelle Satipatthana Sutta. J'y reviendrai plus tard à ce discours. Mais c'est un des fondements du bouddhisme. Encore faut-il comprendre ce que ça veut dire, ce que le Bouddha voulait dire par là. Ça peut être assez différent de ce qu'on entend aussi maintenant, de ce qu'est la pleine conscience. Donc je vais essayer de construire un peu. C'est une vision complexe en fait, la pleine conscience. Au départ, dans ce qu'on en entend maintenant dans notre monde, dans notre quotidien, dans les journaux, ce qu'on écoute peut-être, certains discours sur YouTube, on va entendre beaucoup de discours sur la pleine conscience qui sont souvent beaux, utiles, mais aussi simplifié. Et parfois, la simplification, elle trahit un peu la profondeur. Donc là, je vais démarrer avec une vision assez simple de ce qu'est et de ce que peut être la pleine conscience, et puis essayer peu à peu d'amener d'autres éléments de manière à ce qu'on puisse avoir une perspective un peu plus complète, mais du coup aussi plus complexe. Et un exemple en fait de pleine conscience assez simple à comprendre, c'est, je lisais ça dans un livre il y a quelques années, un livre écrit par Daniel Goleman qui écrivait sur son thème, c'était l'intelligence émotionnelle. Et il prenait l'exemple d'une étude qui a été faite dans les cours d'école à observer les enfants. Et voir comment un enfant fait pour s'intégrer à un groupe quand il y a un jeu. Et donc, en fait, l'enfant, ce qu'il fait, l'enfant qui, en tout cas, a cette capacité d'intelligence émotionnelle, quand il veut rejoindre un groupe qui est déjà en activité, qui est déjà en train de jouer, un groupe constitué, ben, il ne se jette pas dedans directement. D'abord, il reste en dehors et il regarde. Il regarde, il regarde. Et en fait, il observe. Et ce qu'il observe, c'est déjà qui joue, c'est quel est le jeu, il essaie de comprendre un petit peu les règles, il y voit un petit peu les règles, il voit les énergies en cours, ceux qui sont un peu les meneurs, ceux qui sont peut-être un peu moins, qui sont peut-être un peu plus écrasés, ceux qui sont un peu plus timides. Il voit toutes les énergies et les échanges en cours, il voit les interactions entre les gens, et de cette observation, peu à peu, à un moment, il va sentir comment il peut rentrer dans le jeu. Et il va rentrer d'une certaine manière en fonction de ce qui a été observé, en fonction de ce qu'il a ressenti. Et quand il rentre, et ça je le vois souvent avec mon fils, il a 12 ans, quand il rentre dans le jeu, il va rentrer toujours, il rentre un petit peu, mais en fait il va rentrer d'une façon un peu timide. Et je pense que la majorité des enfants vont faire ça. C'est timide dans le sens où c'est pas parce qu'en soi il est timide, c'est parce que il ne prend pas encore toute sa place parce qu'il est nouveau. Et ça veut dire qu'il reste sensible et très attentif à comment il est perçu dans le jeu et comment son entrée dans le jeu change les énergies et tout ça. Alors, rien de ça n'est conscient, mais c'est ça qui se passe. Et peu à peu, il va trouver sa place. Peut-être à un moment, il va devenir meneur. Et à un moment, peut-être même, il va proposer de changer des règles ou de changer de jeu et amener le groupe complètement ailleurs. Mais il va y avoir tout ce processus-là. Parfois, un enfant qui n'a pas cette capacité va rentrer dans le jeu directement parce qu'il a envie de jouer. Alors, il rentre dans le jeu et c'est très tendu parce que les enfants, quand ils se font rejeter, ils sont rejetés sans aucune pédagogie, sans aucune diplomatie. C'est brutal, en fait. Mais il y a des enfants, ils rentrent, en fait, parce qu'ils n'ont pas pris ce temps d'observation. Ils rentrent et souvent, ils vont directement prendre une place forte et essayer de mener le jeu, parfois. Ou directement vouloir changer des règles. Ils se font jeter. Et direct, ils se font jeter. Et c'est très souffrant. Et donc là, dans cet exemple, on voit un exemple de pleine conscience de cet enfant qui est sur le bord de la cour de l'école et qui regarde les autres qui jouent. Il regarde. Il n'est pas en train de se dire comment est-ce que je vais faire. Alors lui, il a l'air un petit peu agressif. Je vais essayer de pas trop m'approcher. Par contre, lui, je vois bien que c'est un peu le souffre-douleur. Donc moi, quand je vais rentrer, je le cogne un petit peu aussi. Comme ça, je fais partie du groupe. Et puis lui, il a l'air sympa. Donc lui, je vais. Non, il se dit pas tout ça, mais il sent tout ça. Il a pas besoin de se le dire. Il n'a pas besoin de nommer. Personne ne lui a appris comment faire pour rentrer dans le jeu. Il n'a pas lu un bouquin, moi je ne lui ai pas expliqué. Mais c'est naturel. C'est intelligent, naturellement. C'est une intelligence non apprise. C'est une intelligence, c'est notre intelligence, c'est l'intelligence qu'on a tous en nous. Cette intelligence, elle est là et elle sait comment qu'on fait. Hein, elle sait comment faire. Voilà, mais pour ça, pour que cette intelligence puisse se mettre en action, il faut qu'il y ait cette observation. Cette observation, c'est il faut qu'on soit pleinement conscient de l'environnement dans lequel on évolue, des énergies en cours, du moment, de la situation. Il faut qu'on soit, c'est comme ça qu'on se met en résonance. Et quand on se met en résonance de cette façon-là, alors on trouve une place juste. Quelle que soit la situation, que ce soit une situation difficile, une situation relationnelle complexe, par exemple, on va trouver les places justes, la manière d'intervenir, le ton de la voix, il va y avoir... En fait, tout va se poser d'une façon juste. C'est juste comme ça, c'est juste naturel, c'est juste intelligent. Ça me rappelle une situation que j'ai vécue quand j'étais en Inde. J'étais parti avec... on était deux avec une amie, on avait acheté des ânes et on était parti dans le désert. On avait marché 600 km. Vers la frontière du Pakistan. Et à un moment, on a vécu plein de situations extraordinaires, hein, ça a duré 5 semaines. Une situation, c'était assez tendu, en fait. On avait été suivi par une bande de jeunes qui avaient, je dirais, entre 12 et 18 ans. Ils étaient 10-12. Avec eux, ils avaient des petites haches parce qu'ils allaient dans le désert, il y a des petits buissons et ils vont collecter du bois. Ils nous avaient suivis depuis le dernier village qu'on avait quitté et là, le soleil se couchait et partout où on allait, ils nous suivaient en fait. Et nous, on aimait bien en fait quand on s'installe, on n'avait pas envie que les gens sachent où on était parce qu'on nous avait aussi mis en garde contre des agressions, des bandes de voleurs. Enfin, le Rajasthan, c'est très sauvage. Et donc, c'était important pour nous d'être cachés. Puis, il y avait cette bande de jeunes qui nous suivaient. Et puis, peu à peu, leurs intentions, on sentait bien que leurs intentions, ce n'était pas très clair. Et puis, alors, à un moment, je leur demande où ils vont. Au départ, c'était très sympa. Et puis, après, ça devenait tendu. Ça faisait plus d'une heure qu'on était partis du village. Donc, ils étaient loin de chez eux. Le soleil allait se coucher. Et je leur demande où ils vont. Alors, ils disent, on va à la ferme là, d'un oncle et tout. Et du coup, je fais, ah, bah, tiens, nous, on va par là et on quitte le chemin. Alors là, ils ne savent pas trop comment nous suivre parce qu'ils sont sur un chemin, ils ont dit qu'ils allaient par là. Donc on part un petit peu, on commence à ramasser des brindilles pour faire notre feu du soir. Et puis à un moment, je monte sur une dune et je les vois, en fait, ils étaient en train de nous suivre. Alors là, ils montent une espèce de colère et je vais vers eux. Et là, le ton de ma voix a changé. Et là, je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous nous suivez? Et tout ça. Et puis eux, ils me voient, hop, ils partent en arrière. Et puis là, ils se rassemblent, ils prennent leur hache et ils reviennent vers moi. Et alors là, j'ai vraiment une espèce de chute de tension, enfin, une espèce de montée en fait, d'une peur qui vient. Et puis directement, en fait, je vois toute cette situation et en même temps, je sens comme si j'étais. C'est pas moi qui prends le contrôle, le ton de ma voix change, mon attitude corporelle change, tout change. Au lieu de reculer, je vais vers eux et je rentre complètement différemment en relation, en disant, mais qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous allez? Mais avec un ton et en même temps hyper attentif. Il y en avait un en fait qui avait un regard un peu fou depuis le début et qui était très dérangeant dans la relation, et hyper attentif à ce que lui ne parte pas en vrille, quoi, parce que je voyais bien que c'était lui qui avait dit aux autres, regardez, il est tout seul et nous on a des plaies, on a des haches. Et en fait, et je sentais qu'il y avait quelque chose, presque au-delà de moi-même, qui jaugeait et qui gérait cette situation. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait pris la main sur ce que moi j'aurais fait ou j'aurais pu faire dans cette situation. Et une très grande présence d'attention, une attention vraiment pleine qui était là à la situation. Et du coup, comment est-ce que ça s'est terminé? Je me rappelle même plus, ils sont repartis, mais je ne me rappelle même plus exactement. En tout cas, ce qui m'est resté vraiment de ce moment, c'est ce changement de ma voix, de mon attitude corporelle, cette clarté d'attention et tout la manière d'être dans cette situation extrêmement conscient de tous les détails de leurs interactions à eux. À cause du danger, bien sûr. Et puis, bref, après, là, ils sont repartis, et puis nous, on a continué, et ils ne nous ont pas suivis, on a vérifié plusieurs fois. Et donc, il y a cette intelligence. Il y a cette intelligence qui est là. Cette intelligence dont je parlais la dernière fois, je pense, quand je disais que souvent, quand j'y pense, je pense à l'intelligence du bébé qui trouve le sein, par exemple, et qui n'a pas appris ça. Voilà, il n'a pas appris ça de nouveau dans un bouquin, c'est l'intelligence qu'on a tous en nous. Et cette intelligence, elle peut être active uniquement quand on est conscient et quand on est, comme on le disait dans la dernière retraite, quand on est dans cette position d'observation ou pour apprivoiser une situation. À la dernière retraite, il y avait ce thème du petit prince et le renard qui dit au petit prince, parce qu'il veut être apprivoisé, il lui explique ce que veut dire apprivoiser et il lui dit, ben, pour apprivoiser, il faut que tu t'assoies à une certaine distance et puis que tu m'observes. Et comme ça, tu pourras m'apprivoiser peu à peu. Et puis plus loin, le renard, il dit, ben, on ne connaît que ce qu'on a apprivoisé. Donc, on ne connaît que ce qu'on s'est mis à observer. Et l'enfant, en fait, il observe la situation dans la cour de l'école jusqu'à ce qu'il la connaisse suffisamment pour rentrer dedans. Il ne rentre pas dedans avec son énergie telle qu'elle est, lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et ça, c'est de la pleine conscience. Par exemple, quand après cette retraite, je vais rentrer chez moi, si je rentre et j'ai plusieurs heures de voiture et tout ça, je vais arriver dans la maison le soir. Si j'arrive, qu'il y a ma femme et mon fils qui sont là, et que je rentre, je peux rentrer avec toutes mes histoires de ma journée et tout ça, et rentrer et commencer à interagir de là, et ça fonctionne, et c'est ce que je fais d'habitude parce que je ne vis pas en pleine conscience, mais du coup, ça va manquer de sensibilité. Je peux aussi rentrer avec la sensibilité de eux qui ont eu leur journée, où est-ce qu'ils en sont, dans quel espace. Et alors, je peux rentrer et sentir l'énergie, voir comment ils sont, rentrer en relation, ça a été ta journée. Ah, bah, c'est comme ça qu'on rentre en relation. Et peu à peu, on ressent ce qui se passe dans la pièce. Et en fait, peut-être qu'on va faire et être très différemment de comment on aurait été et ce qu'on aurait fait si on n'avait pas cette sensibilité en rentrant. Et du coup, on peut rentrer plein de nous-mêmes, en fait, et mettre comment on dit, un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine. Et parce qu'il y a des sensibilités qui sont là et on n'a rien vu, on n'a rien senti, et bim bam, mais moi, mon histoire et tout ça. Donc en fait, on n'est pas en harmonie avec la situation dans laquelle on se trouve, parce qu'on ne lui a pas prêté attention. Ça, c'est de la pleine conscience. C'est au moment où j'arrive dans une situation de sentir qu'est-ce que je sens, comment est-ce que je sens ce qui se passe, qu'est-ce que je vois. Quelles sont les attitudes corporelles? Quelles sont... C'est pas une étude, comme l'enfant ne fait pas une étude. C'est pas une étude. C'est de se permettre de sentir, d'être attentif. Quand on fait ça, quand il y a des moments, et on a tous des moments comme ça, et puis on a des moments pas comme ça, hein, mais on a tous des moments, c'est pas juste on est pleinement conscient ou on est pleinement absent, on est toujours quelque part entre les deux. Mais là, ce qu'on cherche, avec la pratique de la méditation notamment, c'est à augmenter la sensibilité et la capacité de ressentir, et aussi la durée et le nombre de fois. On cherche à s'en rappeler souvent. On cherche à ce que ça devienne un automatisme, un instinct en fait, d'être attentif aux autres, d'être attentif à ce qui se passe en nous. C'est pareil avec nous-mêmes. Parfois, on est l'éléphant, avec nous-mêmes l'éléphant dans le magasin de porcelaine. On vit tout un tas de choses émotives et tout ça, et puis on arrive avec nos gros concepts de ce qu'on devrait vivre et de ce qu'on ne devrait pas vivre, et on n'écoute même pas ce qui se passe en fait. On n'a pas une pleine conscience de ce qui se passe en nous, on a juste tout un tas de manières de voir comment on devrait être, et on n'écoute pas du tout ce qui se passe. On n'est pas pleinement conscient de ce qu'on est en train de vivre. On est très interventionniste avec des idées. Et donc, on cherche à augmenter la sensibilité et l'attention, la qualité d'attention portée au moment. La qualité d'attention portée au moment. Et quand on augmente la qualité d'attention portée au moment, on va avoir des inspirations intuitives de comment être dans ce moment. Et on va peut-être être très différemment de ce qu'on aurait été si on avait agi sans cette conscience. En fait, quand on n'est pas dans un moment de pleine conscience, quand on n'est pas dans un moment de cette pleine sensibilité de ce qui est autour de nous et de ce qui est en nous, on agit de façon automatique. C'est-à-dire qu'on reproduit le passé encore et encore. On refait toujours la même chose. Il n'y a aucune créativité. C'est toujours la même réponse. Comme si les situations, comme s'il y avait 50 sortes de situations dans notre vie et que chaque situation avait déjà une réponse préécrite en nous. Et dans telle situation, je suis comme ça. Et dans telle situation, je suis comme ça. Et dans telle situation, je suis comme ça. Mais il n'y a pas 50 situations. Parce qu'en fait, chaque situation, chaque moment est toujours, toujours différent. Et c'est la sensibilité à ça qu'on voudrait avoir. Parce que du coup, nous, à chaque fois, on peut être différent. On aura toujours notre personnalité et nos manières d'être, mais on aura de cette sensibilité des réponses qui seront beaucoup plus fines et ajustées, en harmonie. Sinon, on vit beaucoup avec nos idées de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et on crée énormément de souffrance pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà. Et ce n'est pas la peine de se martyriser avec ça, c'est ce qu'on fait tous, dans une certaine mesure. Mais c'est bien pour ça aussi qu'on est ici, c'est pour apprendre à une manière de marcher dans cette vie qui a plus de sagesse. Donc là. La pleine conscience, en fait, on peut la voir comme un entraînement. Comme un fruit, mais aussi comme un entraînement. L'entraînement de la pleine conscience, elle se fait en méditation, sur le coussin, sur la chaise ou allongé. Ou on va pratiquer, par exemple, la pleine conscience de la respiration. Et du coup, pendant l'inspire, on essaie de bien sentir tout l'inspire. Pendant l'expire, on essaie de bien sentir tout l'expire. On essaie de bien être conscient de tout le mouvement de l'inspire, de bien être conscient de tout le mouvement de l'expire, de l'expire. C'est une observation, une présence à, une sensibilité à. Et puis après, on va porter attention à tout ce qui nous habite. La respiration, souvent, moi je vois la respiration un peu comme la base. C'est-à-dire que c'est un ancrage qui permet d'être non distrait. Parce que souvent, ce qui empêche cette sensibilité de la pleine conscience, c'est la distraction. C'est-à-dire qu'on est pris dans nos histoires et du coup, comme dirait Thich Nhat Hanh, on n'est pas là où notre corps est. C'est ça, une des définitions qu'il donne de la pleine conscience, c'est être là où son corps est. Donc mon corps est ici, ben, je suis ici. Et donc il y a quelque chose de très, très incarné, très physiquement présent, très l'antithèse d'être ailleurs dans sa tête. Et donc, en s'ancrant dans la respiration, en ressentant tout l'inspire et tout l'expire, on peut soit pratiquer vraiment, vraiment la concentration hardcore et du coup n'être ouvert et attentif à rien d'autre qu'à la respiration. Mais on peut aussi utiliser, quand on a l'habitude un peu de la pratique de la méditation, on utilise la respiration pour se sentir présent. Et après ça, c'est ça qui allume la lumière. La lumière est allumée et on entend les sons. Et on sent les sensations physiques. Et on voit une pensée qui émerge. Et on réalise qu'il y a un état d'esprit qui est présent. Tout ce qui est observable, en fait, est vu, peu à peu. On est conscient, on est simplement conscient. Et la respiration sert un petit peu d'ancrage. Elle est là, on est conscient, j'inspire, on est conscient, j'expire. Et en même temps, on perçoit tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur, comment l'extérieur impacte sur l'intérieur, ce que ça fait quand il y a tel ou tel son sur l'intérieur. Donc là, on pratique la pleine conscience. D'une façon formelle. Et puis après, la pleine conscience, ce qui est intéressant avec ce concept et cette approche, c'est que c'est aussi transférable et utile dans le quotidien. C'est-à-dire que de la même manière, après, eh ben quand on fait la vaisselle, on peut vraiment sentir la chaleur de l'eau, le mouvement. Savoir qu'on lave cette assiette, savoir qu'on lave l'assiette suivante, être présent, sentir le poids du corps sur les pieds, être avec la respiration, et puis après ça, il se passe quelque chose, quelqu'un rentre, on sait que quelqu'un rentre, et puis on a un échange, on sait qu'on a un échange. Là, on reste, on s'entraîne, c'est un entraînement. Ah, bien sûr, ça part en cacahuète, hein. On part dans notre tête, on part dans les trucs, hein, pas du tout pleinement conscient. Mais quand on a une pratique de méditation, surtout la méditation formelle, donc assise ou marchée ou debout ou allongée, quand on a une pratique formelle, on va se rappeler plus souvent dans le quotidien de revenir là, au moment, de laisser tomber le petit vélo qui tourne dans la tête et de revenir juste là, au moment, et de ramener cette sensibilité et cette présence, revenir là où se trouve notre corps. Et ça a de nombreux effets, tous positifs. C'est assez étonnant, en fait. J'ai écouté un discours de Jack Canfield, un enseignant de méditation aux États-Unis, qui disait que, il y a eu plus de 1 000 études positives sur les bienfaits de l'attention portée à la respiration. C'est incroyable. C'est encore inexpliqué. C'est encore inexpliqué comment le fait de porter attention à sa respiration permet de développer le système immunitaire. C'est inexpliqué, c'est constaté. Et donc, il y a nombre de bénéfices, en fait. Et un des bénéfices qui est tout à fait constatable et qu'on constate en méditation et qu'on peut constater et comprendre dans notre quotidien et transférer dans notre quotidien, c'est que quand on est pleinement présent et attentif à notre respiration, par exemple, eh bien, ça diminue la prolifération des pensées. Il y a automatiquement moins de pensées. C'est antinomique, c'est impossible, l'un exclut l'autre. Il n'est pas possible d'être complètement pris dans des histoires qui partent dans tous les sens et en même temps pleinement conscient de sa respiration. C'est un ou l'autre. Donc, c'est-à-dire que quand on prend son attention et qu'on la mène à la respiration, qu'on est pleinement conscient de la respiration, ça diminue la prolifération des pensées. Ce que les bouddhistes appellent ça papancha. J'aime bien ce mot, je le trouve amusant. Papancha, c'est la prolifération. Et donc, la prolifération diminue automatiquement. Et cette prolifération de pensées est extrêmement problématique. Parce que déjà, elle nous déconnecte complètement de ce moment et de cette sensibilité. Déjà. Donc, par exemple, l'enfant qui va rentrer dans le jeu sans même l'avoir regardé, si ça se trouve, c'est parce qu'il est déjà pris par une prolifération de pensées. Il peut être, lui, il a déjà une idée de ce à quoi il voudrait jouer, de comment il voudrait que ça se joue. Ça, c'est dans la tête. Il a déjà une idée de, on devrait faire comme ça, on pourrait jouer à ça et tout ça. Et du coup, c'est déjà une prolifération dans son esprit. Et il rentre avec ça et ça clash. Et nous aussi. Et du coup, souvent, on a cette prolifération qui nous déconnecte de la sensibilité du moment. Et quand on revient à la pleine conscience, quand on marche, on sait qu'on marche. Quand on est dans la voiture et qu'on conduit, on sait qu'on est dans la voiture et qu'on conduit. Quand on est là où est notre corps, automatiquement, ça diminue la prolifération des pensées et automatiquement, ça nous permet d'être plus à vivre ce qu'on est en train de vivre. Un enseignant, je ne sais plus exactement qui disait cette... Une petite citation, je ne sais plus exactement de qui, un enseignant de méditation qui disait, si pendant que vous êtes au travail, vous pensez à faire l'amour, et puis pendant que vous faites l'amour, vous pensez au travail, eh bien, vous avez besoin de la méditation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si pendant que je joue avec mon fils, je pense que je n'ai pas fait ça, et puis pendant que je fais ça, je me demande ce qu'on va manger ce soir, et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, d'une part, que je ne vis pas toutes les couleurs de ma vie, parce que le moment où je joue avec mon fils, c'est un moment qui a une certaine couleur, et puis peut-être 5 ou 10 minutes après, je fais mon travail, c'est une autre couleur. Du coup, je ne suis pas vraiment à jouer avec mon fils et ce n'est pas satisfaisant, je ne suis pas satisfait et lui non plus, hein, ce n'est pas très vivant. Quand je suis à mon travail, en fait, je ne fais pas bien mon travail non plus, parce que je suis en train de penser à ce qu'il va falloir cuisiner ou à mille choses, hein, ou à un souci que j'ai eu avec un tel ou quoi que ce soit. Je suis en train de faire ça, mais en fait, je ne suis pas là, je suis ailleurs. Je ne suis pas là où est mon corps, je suis ailleurs. Donc, il y a perte de sens, inefficacité, et quelque chose qui devient un peu gris, parce que toutes les couleurs se mélangent. Parce que pendant que je suis en train de faire ça, en fait, je suis en train de faire autre chose. Donc, en fait, ce n'est pas ni ça, ni ça. C'est deux couleurs mélangées. Et toutes les couleurs peu à peu se mélangent, et toutes mes journées peu à peu se ressemblent. J'ai pas ces moments très tranchés avec des couleurs très différentes, où quand je mange avec le goût, avec le plaisir de la table, avec juste la relation. Non, si quand je mange, je suis exactement dans les mêmes histoires que quand j'étais avant de manger, du coup, je mange pas vraiment. Un peu. Je nourris le corps et le corps sera nourri, ok. Mais il n'y aura pas la sensation de satisfaction, le moment ne sera pas vraiment vécu. Aucun moment n'est vraiment vécu. Et c'est pas satisfaisant. C'est pas du tout satisfaisant. Et c'est pas vivant. Et c'est pas intelligent. Cette intelligence qui est en nous n'a pas l'occasion de s'exprimer parce que on n'est pas là où on est. Et là, à chaque fois qu'on ramène de la pleine conscience, on ramène la possibilité, du coup, on offre la possibilité à cette intelligence qui nous dépasse, qui est nous-mêmes, en nous, mais que au-delà de ce qu'on connaît de nous-mêmes, on lui offre la possibilité de s'exprimer et de prendre sa place, d'être juste dans sa réponse, de s'ajuster à la situation, pour que cette manière d'être dans ce monde, pour que cette manière d'être dans le moment puisse prendre place. Il faut qu'il y ait une certaine compréhension en fait de nos mécanismes. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi distrait? Et une des raisons pointées du doigt par le Bouddha, c'est la réactivité. C'est le fait que chaque moment ou chaque suggestion, une pensée, par exemple en méditation, une pensée, va soit nous attirer et nous séduire, soit être repoussante et on veut qu'elle s'arrête, soit inintéressante et du coup va générer de l'ennui. Donc dans le moment, en fait, pas juste une pensée, toute expérience va avoir une de ces trois qualités. Elle va être soit on aime, il se passe quelque chose, par exemple, un oiseau chante. Dedans, il va y avoir une sensation j'aime. S'il y a la sensation j'aime, on va vouloir que ça continue. C'est une réaction. Ou alors, il va y avoir peut-être un camion qui passe. Et dedans, il va y avoir une certaine crispation, un certain j'aime pas. Et du coup, on va vouloir que ça s'arrête. Ou une douleur dans le dos qui arrive, j'aime pas. Du coup, on va vouloir que ça s'arrête. Ou alors, il va y avoir des choses qui vont être là et qui ne génèrent absolument aucun j'aime et aucun j'aime pas. Et du coup, il y a du désintérêt. Ça n'est pas d'intérêt à ça. Donc ça, ces trois éléments, en fait, c'est la totalité des réponses qu'on peut avoir par rapport aux expériences qu'on est en train de vivre. Ça doit être une des trois. Et une des racines, en fait, de la souffrance, de l'insatisfaction, c'est de vouloir que quelque chose que j'aime continue, de vouloir que quelque chose que je n'aime pas s'arrête. Ça, c'est ce qu'on appelle la réactivité. C'est-à-dire, il va y avoir une expérience qui est là, et vraiment, celle-là, je voudrais que... J'ai un beau moment en méditation, par exemple, automatiquement, il va y avoir une saisie. Je veux que ça reste. Et ce mouvement est déjà une contraction. Parce que c'est comme si on essayait d'arrêter la rivière qui coule. Les moments passent et ils contiennent tout. Et donc, c'est la capacité d'accepter que ces moments passent et contiennent tout, qui fait qu'il n'y a pas de saisie et de réactivité. Quand par exemple je suis avec ma respiration, j'observe l'inspire, j'observe l'expire, et il va y avoir une pensée d'un... Prenons plutôt une pensée d'un désir. Ça va être plus simple. Là, ça m'amenait en fait... encore ailleurs. Donc, s'il y a une pensée d'un désir, prenons un désir que tout le monde a su, que beaucoup ont combattu ou combattent, ou que tout le monde connaît plus ou moins, c'est le désir d'une cigarette, par exemple. Hein, tout le monde connaît au moins des gens qui se battent contre la cigarette ou qui voudraient arrêter mais qui n'arrivent pas et tout ça. Il y a toute une complexité là. Je suis en méditation, je suis avec l'inspire, je suis avec l'expire, je me sens présent. Et là vient l'idée de la cigarette. Que ce soit une envie d'une cigarette ou de nouveau toute cette histoire que j'ai avec la cigarette. Que je voudrais m'arrêter mais que j'y arrive pas ou que j'ai déjà... Hein, que toute cette histoire vient. À partir du moment où cette idée vient, je vais la saisir. Si j'ai envie de la cigarette, il va peut-être venir. Ah ouais, mais non, mais je ne devrais pas. En plus, je suis là avec la méditation. Vous voyez, là, Papancha va commencer. Parce qu'il n'y a pas une acceptation de cette idée. Et on ne la laisse pas partir. Elle passe. Normalement, c'est juste c'est une idée qui passe, une émotion, une envie. Mais tout passe. Mais là, il y a saisie. Et souvent, il va y avoir saisie parce que je ne veux pas que ça soit là. Ah non, pas encore cette idée. Je ne veux pas que... C'est incroyablement pervers, en fait. C'est parce que je ne veux pas que ça soit là que je le maintiens. Que je le maintiens. Ça génère cette réactivité. Ça me fait réagir. Là, ah non, pas l'idée de la cigarette. Et hop, je repars dans toute l'histoire de la cigarette. Et là, je ne suis plus du tout pleinement conscient. J'ai quitté. Parce qu'il y a eu une saisie, parce qu'il y a eu quelque chose qui m'a attrapé, parce qu'il y a eu là du j'aime pas. Je ne veux pas que ça soit là. Et quand il y a quelque chose, j'aime ce moment de méditation, comment est-ce que je pourrais faire pour que j'en aie plus des moments comme ça? Et si je pouvais être plus souvent comme ça? Et je devrais pratiquer plus souvent? Ah ben tiens, si je changeais le salon. Et allez, c'est parti. Hein, le salon pour mettre mon zafou là, mais il y a la télé. Hein? Et allez, c'est parti. Pourquoi? Parce que ce moment était là et j'ai voulu le faire durer. J'aime, je saisis, je veux que ça dure. Et hop, construction. Construction. Game over. C'est fini. J'aime pas, je veux pas que ça soit là. Hop, saisis. Construction. L'enfant, quand il regarde le jeu, vraiment, quand un enfant, imagine un petit enfant qui regarde un jeu, il n'est pas en train de se dire, ah, ça serait bien si c'était plus comme ça, ah, ça serait bien si les cages du foot, elles étaient un peu plus larges, ah, ça serait bien si on avait un super ballon comme ça, ou... Non, il regarde le jeu. Il regarde les choses telles qu'elles sont. Il ressent les choses telles qu'elles sont. Et il va faire avec ce qui est là. Il ne va pas vouloir changer les choses. Il va faire avec ce qui est là. Il ne voudrait pas forcément... Il ne va pas se dire « Ah, ça serait bien s'il y avait machin et bazar, plutôt, et que lui ne soit pas là, et que... » Non. Ça, c'est de la réactivité, ça. C'est la capacité, en fait, de faire avec ce qui est là, de laisser être. Accepter, accepter le moment tel qu'il est, veut dire laisser être. Accepter veut dire laisser être. Dans ma méditation, l'idée de la cigarette vient. Je vois l'idée de la cigarette qui vient. L'esprit, du coup, dit « Ah, ce serait bien, j'ai envie de fumer. » Je vois l'esprit qui dit « Ah, ce serait bien, j'ai envie de fumer. » Et s'il n'y a pas cette réactivité, autre chose va venir. Ça va passer à autre chose. Mais s'il y a « ah non, je ne veux pas avoir ce genre de pensée pendant la méditation. Ah non, pas encore ça. En plus, je sais que ça va me relancer dans ma tête. Là. Et puis, je me suis déjà raconté 100 000 fois cette histoire que je devrais arrêter de fumer. Mais c'est vrai que quand même, c'est pour mes poumons. Réactivité. Réactivité. Vouloir quelque chose qui n'est pas là. Ne pas vouloir quelque chose qui est là. L'enfant qui rentre dans le jeu et qui veut le changer, il veut que ça soit autrement que ce que ça est. Du coup, il n'y a pas de possibilité de pleine conscience. Pleine conscience, ça implique la nécessité d'accepter complètement la situation telle qu'elle est. Et de là, éventuellement, on est intégré dans la situation, on n'est pas en dehors, on fait partie de la situation, et notre manière d'être dans cette situation va amener l'intelligence d'un changement nécessaire. Si changement nécessaire. On peut changer les règles du jeu. L'enfant, quand il sera bien rentré et intégré, peut proposer des aménagements du jeu. S'il est bien intégré émotionnellement, si ce n'est pas fait de l'ego et d'idées toutes faites, mais que parce que lui, il est enthousiaste de pouvoir faire autrement, il va avoir un impact. Ça va être intelligent comme processus. Et nous, pareil, c'est d'abord regarder la situation telle qu'elle est, l'accepter, parce que les choses sont comme elles sont. C'est très conceptuel de dire qu'elles devraient être autrement que ce qu'elles sont. D'abord, on regarde et on voit les choses, elles sont comme elles sont. Très important d'être pleinement conscient aussi de nos états d'esprit. Les états d'esprit, c'est différent des émotions. Une émotion, c'est plus court. L'émotion, c'est quelque chose qui est fort et soudain et qui ne dure pas très longtemps, en fait. Mais souvent, les émotions, après, induisent un état d'esprit qui, lui, peut durer des jours. Et du coup, si on n'est pas conscient d'un état d'esprit, on croit que le monde est comme on le voit. Mais le monde, il n'est pas comme on le voit. On le voit comme ça à cause d'un état d'esprit qui est en nous. Si on n'est pas conscient de ça, on est prisonnier. Donc, la pleine conscience va dans tellement de domaines. Là, la pleine conscience d'un état d'esprit, si on a un esprit, par exemple, on est dans un état d'esprit généreux, eh ben, on va voir toute situation dans laquelle on va pouvoir exprimer et voir aussi les actes de générosité. Si on est dans un état d'esprit de gratitude, hein, si l'esprit est dans ce moment, il y a la gratitude dans l'esprit, eh bien, on va, dès que... on boit un verre d'eau, eh ben on va sentir de la gratitude. Dans notre pleine conscience, il y aura la gratitude, parce que la gratitude est dans l'état d'esprit. S'il y a un état d'esprit d'anxiété, eh bien, on va voir dans le monde qui nous entoure plein de raisons d'être anxieux. Tout ce qu'on va voir va être tourné à l'anxiété. Pas parce que c'est en soi des choses anxiogènes, mais parce que l'anxiété, l'esprit, et anxieux. Donc, comment est l'esprit en ce moment? Comment est l'esprit? Quelle est sa couleur? Comment est-ce qu'il colore tout ce qui est vu? On a trop tendance à croire que les choses sont comme on les voit, en oubliant que parfois on a des lunettes colorées qui nous font voir d'une certaine couleur, et que ces lunettes, elles changent. Et du coup, quelles lunettes est-ce qu'on a pour le moment? Quand on voit quelque chose, surtout quand on voit quelque chose qui nous fait vivre des émotions, et encore plus quand on voit quelque chose qui nous fait vivre des émotions difficiles, mais pas que aussi, quand quelque chose nous fait vivre des émotions agréables, il faut voir quel est l'état d'esprit. Il y a un lien. Donc on amène la pleine conscience des états d'esprit. Ce n'est pas juste la pleine conscience de la respiration, de savoir si le corps est debout, si le corps marche, l'eau de la vaisselle, si on est aux toilettes. La pleine conscience des états d'esprit. On amène la pleine conscience de ce que le Bouddha appelle les dharmas, c'est-à-dire les règles qui sous-tendent la vie. Par exemple, on essaye d'être conscient de quelles attitudes sont causes de souffrance. Attitude intérieure, attitude explicite extérieure, quelles sont les attitudes et les manières de voir qui créent de la souffrance. Très important. Qu'on soit conscient de quand je pense comme ça, quand j'agis comme ça, quand je suis comme ça, ça me fait souffrir moi et ça fait souffrir les autres. Je peux tracer cette souffrance et sa cause. C'est basique dans le chemin du bouddhisme. Et quelles sont les attitudes qui génèrent de l'ouverture, qui génèrent de la bienveillance. Quelles sont les attitudes, les manières d'être, les états d'esprit, le type de pensée, voire les liens. Pleine conscience des liens. Hein. Tiens, là, l'esprit est dans tel, pour le moment, il a telle couleur. Ça génère tel type de pensée. Tel type de pensée génère tel type de relation avec d'autres. À l'intérieur de moi, ça génère tel type de tension ou tel type d'ouverture. Et c'est les dharmas, c'est les liens, c'est les lois qui sous-tendent. C'est aussi pleine conscience de ces fonctionnements intérieurs, de ces lois universelles qui sont en chacun de nous. Bien sûr, nous, quand on entend ça, ça nous fait beaucoup, hein, ça fait ouf, conscient de tout ça. Mais un peu, juste un peu, c'est déjà beaucoup. On n'est pas des moines, on n'a pas une vie... simplifié. Là, j'ai commencé à intervenir dans les prisons, c'est à Béziers, et c'est super intéressant parce que on a discuté avec des prisonniers. La méditation, en fait, c'est super dans les prisons parce que il y a beaucoup de souffrance. La méditation, c'est une belle manière, très noble, très digne et très efficace pour aborder et diminuer la quantité de souffrance, la souffrance psychologique et la douleur physique aussi. Mais aussi, c'est un bon endroit, les prisons, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de décisions à prendre et de choses qu'ils peuvent décider, qu'ils peuvent choisir. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision, il n'y a pas... Hein, ce qui est problématique et triste, mais il y a un avantage à ça. C'est que, du coup, ils ont une grande disponibilité d'esprit, qui souvent devient leur ennemi, parce que l'esprit peut être ton pire ami ou ton pire ennemi. Ça devient en général leur pire ennemi parce que ça tourne de plus en plus dans leur tête, pas pancha. Hein? De plus en plus, et comme il y a 25% des prisonniers qui ont des problèmes psychiatriques, en fait, et qui ne sont pas à leur place, ils devraient être en psychiatrie et pas en prison, ça tourne de plus en plus vite dans leur tête, et ils s'enfoncent. Mais il y a cette disponibilité d'esprit, comme les moines. Nous, on n'a pas ça. On n'est pas moines, on n'est pas prisonniers. Du coup, on a plein de possibilités, plein de choix, plein de choses qui nous agitent, et toute une société qui est là pour nous dire qu'il faudrait qu'on fasse plein de choses, et qu'on soit plein de choses aussi. Du coup, c'est difficile pour nous d'avoir la pleine conscience de toutes ces choses dont je viens de parler. Parce qu'il y a beaucoup de distractions et de suggestions extérieures. Mais quand même, on peut prendre le chemin de simplifier un peu. Si on pouvait tous simplifier un petit peu nos vies déjà, il y aurait plus de possibilités de pleine conscience. Il y a un lien. On ne peut pas être... pleinement conscient de quand il y a trop de choses. Il faut garder quand même un petit peu d'espace. Donc de simplifier un petit peu nos vies, ça va aider à augmenter les moments et la profondeur de notre pleine conscience. mes maîtres de méditation, quand j'ai décidé d'arrêter d'habiter en Inde, donc je lui demandais un conseil avant de venir ici à revenir en France. Et il me disait, ne te lance pas dans des gros projets. C'est le seul conseil qu'il m'a donné. Ne te lance pas dans des grands projets. Et je trouve qu'à pleine conscience, c'est un grand projet. Mais ce qu'il voulait dire, en fait, c'est de ne pas me submerger avec plein de choses à faire. Laisser de l'espace. Et il y a un lien, il y a un lien. Donc, nous aussi, dans ce chemin, pour pouvoir être plus présent là où est notre corps, il faut qu'on ait moins de choses à gérer mentalement. Et dans les choses à gérer mentalement, alors je ne vais pas prendre cette direction-là parce que c'est un tout autre discours, mais il y a la réalité de notre quotidien qui est très complexe, et puis il y a la construction de notre ego qui prend beaucoup plus de place encore que la réalité du quotidien. Hein? Donc la construction de l'ego, il y a moyen de diminuer grave, mais il faut certaines compréhensions, recherches et tout ça, mais aussi il faut diminuer la complexité du quotidien. Tout n'est pas dans nos mains, mais certaines choses, oui. Mais ce qui est central, et qu'il faut vraiment se rappeler, c'est qu'on a la possibilité et qu'il y a la nécessité d'être là où est notre corps. C'est possible. À tout moment, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste s'en rappeler. Souvent, on ne s'en rappelle pas. Passer une semaine sans y penser. Mais quand on s'en rappelle, c'est juste une intention. On quitte l'histoire en cours, comme on a appris en méditation et comme on fait en méditation. On quitte l'histoire en cours et on revient à là. On laisse tomber, on lâche prise sur l'intérêt hypnotique de cette histoire qui me fait vivre toutes ces émotions et qui me fait me réjouir ou avoir peur et me fait exister à travers toutes ces émotions. Je lâche mon intérêt pour tout ça. Je reviens là. Et du coup, je suis dans mes yeux. Dans son discours, le Bouddha parle de les yeux dans les yeux, les oreilles dans les oreilles, le goût dans le goût, le toucher dans le toucher. C'est la conscience. Je suis conscient de ce que je vois, je reviens à être conscient de ce que je vois, je reviens à être conscient de ce que je goûte quand je mange, je reviens à être conscient de ce que je touche quand je touche. C'est énorme la différence. C'est étonnant que ça ne soit pas dans notre monde plus plus recherché. C'est énorme la différence de toucher quelqu'un d'une façon automatique, même de serrer la main ou de mettre une main sur l'épaule, mais genre on pense à autre chose et on met une main sur l'épaule, ou bien d'être vraiment présent et de mettre une main sur l'épaule. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est fin. C'est fin, mais c'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la différence est énorme dans la manière de toucher. Si on touche mais qu'on n'est pas présent dans notre toucher, ou si on touche et qu'on est présent dans notre toucher, la différence est énorme. Et ce que ça induit dans la relation en profondeur. La main dans la main, le toucher dans le toucher. On essaie de ramener ça dans notre quotidien. À des petits moments, ne mettons pas la barre trop haut, mais on peut s'offrir des moments comme ça. Chaque moment comme ça, chaque moment de présence là où on est, à faire ce qu'on fait, va être un moment à la fois où, qui va ramener de la lumière dans notre entourage et en nous-mêmes, et ça va être aussi un moment qui nous fait vivre. Une sensation de liberté. Parce qu'on est libre de cet emprisonnement et cet enfermement intérieur. Parce qu'on se plaint souvent d'être enfermé par une société, mais ce n'est pas la société qui nous enferme le plus. Ce n'est pas la société qui nous enferme le plus. C'est notre incapacité d'être avec nous-mêmes et de sortir de ces schémas qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui nous amènent toujours ailleurs que là où on est. Ça, c'est un enfermement bien plus grave. Donc là, dans cette journée, on va se dédier à ça. On va se dédier à essayer d'être là où on est. Être témoin de notre expérience. Savoir ce qu'on vit. Savoir ce qu'on touche. Savoir ce qu'on goûte. Savoir quand on sort de la salle. savoir quand on s'assoit dans la méditation. Et c'est de ressentir ce que ça change. On peut s'asseoir pour la méditation d'une façon très automatique. Souvent, ça m'arrive le matin, je m'assois, mais je suis encore dans mes histoires. Et du coup, si c'était filmé, et que je vous montre les moments où je m'assois et je sais que je m'assois, et les moments où je m'assois d'une façon automatique pour méditer, mais vous, tout le monde verrait la différence. Parce que le moment où je sais que je m'assois, il y a de la grâce dans le mouvement. Il y a une espèce de, le mouvement est épuré, il n'y a pas beaucoup de mouvement, et j'arrive dans la posture. Et le moment où je m'assois d'une façon un peu automatique dans ma posture de méditation, et il y a des grands mouvements, et je ramène des trucs à gauche et à droite, et puis finalement, quand je suis installé, j'ai oublié les mouchoirs là-bas, et je me relève, j'ai cherché les mouchoirs. C'est n'importe quoi. Je ne suis pas là où je suis. Donc là, dans cette journée, on va essayer de faire ça. Peut-être là où on est. On va prendre ce temps-là, on va prendre le temps, on va s'offrir un espace de liberté. Juste la liberté de pouvoir être là où on est, sans devoir y donner un sens, sans devoir se préoccuper du dehors, de l'avant et de l'après. À encore et encore pratiquer le lâcher-prise de tout ce qui tourne dans nos têtes pour revenir juste à la simplicité du moment. Chacun le dit dans son langage, mais c'est l'attention de cette journée, pleinement conscient, à chaque fois qu'on se rappelle du moment tel qu'il est, pas à se dire « je devrais être comme ça » ou « je ne devrais pas penser à tel truc » ou « je ne devrais pas avoir autant de pensées », c'est pas ça. Ça, c'est réactivité, ça. Pleinement conscient du moment exactement tel qu'il est. Il n'a pas à être beau, il n'a pas à être, à avoir une forme particulière. Juste ce moment, l'esprit, dans quel état est-ce qu'il est, le corps, dans quel état est-ce qu'il est. Merci pour votre écoute.